Qu'est-ce qui a fait que la vie est devenue la valeur suprême de nos sociétés et pourquoi, malgré cela, toutes les vies n'ont pas la même valeur? Invité de la deuxième heure des matins du samedi, le médecin et anthropologue Didier Fassin. Bonjour Didier Fassin.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, professeur au prestigieux Institute for Advanced Study de Princeton, auteur d'une trentaine de livres traduits dans 8 langues. On peut par exemple citer récemment La raison humanitaire, une histoire morale du présent en 2010. Jugé, réprimé, accompagné, essai sur la morale de l'État en 2013, L'ombre du monde, une anthropologie de la condition carcérale en 2015 ou encore Punir, une passion contemporaine en 2017. Et vous êtes le nouveau titulaire de la chaire annuelle de santé publique au Collège de France, une chaire qui a été créée en 2018. Les questions que je citais il y a un instant, eh bien c'est celles que vous avez posées dans votre leçon inaugurale jeudi soir au Collège de France, une leçon intitulée « L'inégalité des vies » et qui reprend les grandes lignes de votre essai paru en 2018 au Seuil sous le titre « La vie, mode d'emploi critique ». En 2 ans, c'est-à-dire entre la parution de votre ouvrage et aujourd'hui, en France, il s'est passé, Didier Fassin, un certain nombre de choses qui donne à votre réflexion comme une dimension visionnaire. On peut penser aux gilets jaunes, on peut penser à la réforme des retraites et au mouvement social contre cette réforme actuellement. On peut penser à MeToo, on peut penser à la crise de l'hôpital public dont vous parliez dans le journal. C'est un peu comme si les inégalités étaient devenues le premier sujet en France. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas, évidemment, à chaque fois, la dénonciation des inégalités qui s'expriment dans ces mouvements? Et comment analysez-vous ce fait-là?
La dénonciation des inégalités et le sentiment d'injustice qui en résulte, on voit comment la société française a évolué au cours des dernières années. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à avoir connu cette évolution. Un mélange particulièrement remarquable dans notre pays de néolibéralisme et d'autoritarisme, le néolibéralisme qui se manifeste aussi bien dans le désinvestissement des services publics, comme on le voyait à propos de l'hôpital, dans la réduction des droits des travailleurs avec la réforme du Code du travail, la mise en concurrence des gens les uns avec les autres, particulièrement spectaculaire dans le cas du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, avec cette phrase assez étonnante du PDG du CNRS demandant à ce que la recherche soit plus inégalitaire et plus darwinienne. Et puis l'autoritarisme qui se manifeste bien sûr par la violence de la répression des manifestations, rendant, comme le disait Pierre Lemaître tout à l'heure, le droit de manifester de plus en plus fragile. Les transformations également des droits civiques avec notamment c'est la série de lois qui a été promulguée et notamment celle sur la sécurité intérieure qui au fond mettait les mesures d'exception dans la loi normale. Donc tout cela, on avait pensé que peut-être un peu rapidement et surtout naïvement que les gens s'y habitueraient, qu'ils accepteraient. Et c'est peut-être ce qui s'est passé au début du mandat du président de la République actuelle. Et puis, eh bien, on a vu les gens se réveiller. On a vu les gens se réveiller avec le mouvement des Gilets jaunes, avec la révolte contre une réforme des retraites qui paraît injuste à beaucoup. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe en France, qui a attiré l'attention de nombreux observateurs étrangers, pas toujours de façon bienveillante, eh bien c'est quelque chose que on retrouve dans de nombreux pays aujourd'hui, et toujours avec à chaque fois un point de départ différent, mais toujours avec cette question des inégalités et des injustices, qu'on pense à Hong Kong, à l'Irak, au Liban, au Soudan, au Chili. Dans tous ces pays, ces soulèvements, il y en a d'autres, montrent que on est dans un moment où peut-être les gens ne sont plus prêts à accepter d'aller trop loin dans ces inégalités.
Vous aviez écrit, Didier Fassin, en 2004, un livre qui s'intitule « Sociologie des lieux d'écoute ». Vous y étudiez 5 lieux ouverts aux victimes de violences, aux chômeurs, aux adolescents, aux personnes fragiles, aux pauvres. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, en 15 ans de ce point de vue-là? Est-ce que la parole de ceux dont on dit qu'ils sont en bas de l'échelle, victimes des inégalités criantes, est plus entendue aujourd'hui? Est-ce qu'elle cherche à se faire entendre plus qu'avant? Est-ce qu'elle peut être entendue plus qu'avant?
Lorsque le livre « La raison humanitaire » que vous mentionnez tout à l'heure a été réédité 10 ans après sa première publication, on m'a demandé d'écrire une postface et j'ai essayé justement de réfléchir à ce qui s'était passé entre les années 1990, au cours desquelles j'avais conduit une série d'enquêtes qui avaient donné lieu à cet ouvrage, et ce qui se passait aujourd'hui. Et j'avais suggéré qu'on était passé d'un moment où nous étions gouvernés par une raison humanitaire dominante, à un moment où nous sommes aujourd'hui gouvernés par une raison sécuritaire dominante. Donc le basculement de l'humanitaire au sécuritaire se voit également dans la place qui est accordée à la souffrance au travail notamment. Et on voit bien que si dans les années 90, il y a eu cette prise de conscience qui se manifestait par notamment cette création de lieux d'écoute dont vous parliez, eh bien aujourd'hui, toutes ces questions semblent passer au second plan dans les mesures qui sont proposées, et notamment dans la manière dont est conçue la réforme des retraites, mais ça n'est qu'un exemple parmi d'autres.
Est-ce que Didier Fassin, de ce point de vue-là, c'est le bon moment d'entrer au Collège de France pour une chaire annuelle? Je veux dire, est-ce que cette entrée au Collège de France sur la chaire annuelle de santé publique participe de cette nouvelle visibilité des inégalités d'un côté ou invisibilité, en tous les cas inaudibilité, de l'autre? Est-ce que vous pouvez apporter votre pierre au moulin, du coup?
Bah écoutez, je l'espère, et c'est pour ça que j'ai choisi pour la leçon inaugurale, qui est un moment quand même tout à fait particulier, j'ai choisi ce thème de l'inégalité des vies, parce que il me paraissait, au fond, la manière de mettre en lumière ce qui est la plus grave des inégalités, et chacun peut en convenir, c'est-à-dire l'inégalité à la fois dans la durée des vies. Rappelons que les 10% les plus pauvres en France ont 13 années de moins à vivre que les 10% les plus riches. C'est considérable. C'est considérable, bien sûr, au moment où on pense à sa retraite, le nombre d'années qu'il restera à vivre. Et on doit ajouter à cela le fait que ces années qui restent à vivre sont bien plus souvent des années avec incapacité que ça n'est le cas pour les gens modestes que pour les gens plus aisés. Mais aussi en termes de qualité de vie, et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans cette lecture, c'est que l'inégalité des vies ne se mesure pas simplement sur la longévité, qui est évidemment très importante, mais aussi sur la valeur, ce qu'on appelle l'espérance de vie, mais qu'au fond, la question de la valeur est aussi en cause, et du coup, on peut penser espérance de vie non pas seulement dans les termes des démographes, qui est tout à fait légitime, la durée moyenne de vie, mais la penser aussi dans des termes peut-être plus anthropologiques, c'est espérance de vie, c'est que peut-on espérer de la vie, c'est-à-dire quelle qualité, quelle dignité peut-on espérer? Et aujourd'hui, on voit bien que cette inégalité-là est particulièrement forte pour beaucoup de gens.
Vous prenez un exemple particulier, vous prenez celui des indemnisations ou des assurances, c'est-à-dire le prix que la société est prête à payer pour une vie, Didier Fassin.
Alors, effectivement, une chose s'est mise en place progressivement à partir du 19e siècle, c'est-à-dire l'idée que lorsqu'on était victime de certains aléas, eh bien, on pouvait recevoir une indemnisation, une réparation de la part de la société. Mais en même temps, on voit que cette indemnisation, cette réparation est très inégalement répartis. Et pour simplement en donner quelques exemples, les gens qui ont été victimes de l'attentat d'Oklahoma en 1995 n'ont rien reçu, alors que ceux des attentats du 11 septembre 2001 ont été bénéficiaires de ces indemnités, mais que même à l'intérieur de ceux qui en ont bénéficié, on a un rapport de 1 à 8 entre ceux qui ont eu les indemnités les plus faibles, c'est-à-dire les familles des victimes, et les familles qui ont eu les indemnités les plus fortes. Mais on peut même extrapoler aux indemnisations des décès sur les champs de bataille. Et si on prend le cas de l'Irak, eh bien, un soldat états-unien qui meurt permet à sa famille de recevoir 200 fois plus que un civil irakien. Donc on voit comment, à travers simplement cette réparation des décès, eh bien, les différences de valeur des vies s'expriment de la manière la plus brutale.
Cet exemple n'est pas anodin quand on pense que la vie est de plus en plus monétisée, ou peut-être qu'une pensée assurantielle se met à contaminer d'autres secteurs de la société. Par exemple, aux États-Unis, où vous vivez la plupart du temps, Didier Fassin, certaines entreprises, comme une entreprise de jeux vidéo, peut-être sans doute la plus grande au monde d'ailleurs, achètent les données de santé de leurs employés à travers des applications. Puis on en voit une autre qui récemment a décidé de ne plus embaucher une seule personne qui fumerait ne serait-ce qu'une cigarette par jour. Bon, c'est le cas dans plusieurs États aux États-Unis. Mais est-ce que, puisque le but c'est quand même de payer moins d'assurance santé et de mutuelle, est-ce que vous diriez, comme dans l'édito du Los Angeles Times de la semaine dernière, que ce sont in fine les plus pauvres et les immigrés statistiquement plus fumeurs qui vont trinquer, si je prends juste cet exemple, et surtout qu'en effet on voit cette contamination au reste de la société de cette monétisation dont vous parlez?
Alors, il y a cette monétisation en effet, et puis effectivement, lorsqu'on prend comme critère les pratiques préventives et les bonnes pratiques préservation de sa santé, on voit que elles sont moins respectées dans les milieux les plus défavorisés, et c'est ceux qui vont être à nouveau pénalisés un peu plus par le fait qu'ils ne bénéficieront pas d'assurance, ou qu'ils recevront des traitements moins facilement, donc voire ne seront pas embauchés dans certaines entreprises. Donc il y a là une double peine au fond de ces catégories les plus modestes de la société.
Comment, Didier Fassin, un gouvernement peut-il tenir compte, justement, de cette inégalité des vies que vous décrivez? Si on prend l'exemple qui occupe beaucoup la France aujourd'hui, la réforme des retraites, comment définir un âge juste de départ à la retraite? Comment réformer le système de retraite en prenant en considération cette différence, cet écart, qui est un écart de la vie et un écart devant la mort également d'ailleurs?
Alors, il est certain que avoir le même âge pour tout le monde, quand certains ont 13 ans de plus à vivre que d'autres, et encore si on prend certaines catégories professionnelles comme les éboueurs ou les égoutiers, les écarts sont encore plus importants, c'est évidemment produire une politique injuste. Elle semble être égale, en même temps, elle est totalement injuste. Mais et donc rétablir, au-delà de la pénibilité, parce que la pénibilité n'est qu'un des éléments, rétablir une certaine forme de distribution des retraites en fonction des âges serait un élément important. L'autre chose, c'est que lorsqu'on donne un certain âge de départ à la retraite, on ne tient pas compte du fait que plus de la moitié des personnes à 60 ans ne travaillent plus, et que ce chômage en particulier affecte plus particulièrement les secteurs de la société les plus précaires et les catégories les plus modestes. Donc on a là, rien que sur ces deux exemples, on a deux éléments très importants de manifestation des inégalités dans quelque chose qui paraît au fond une réforme égalitaire.
Est-ce que cette actualité, ce qui se passe et ce dont nous avons parlé dans ce premier temps d'entretien, Didier Fassin, peut vous servir pour votre enseignement de l'année? Est-ce que vous allez vous servir de ces exemples-là?
Alors, je ne sais pas encore comment, puisque je suis en train d'écrire mes cours, mais je crois qu'il est effectivement très important de produire une recherche et du reste un enseignement et donc une relation avec des publics qui soient en lien avec les préoccupations du moment et qui, je dirais, intègrent cette dimension publique de ces questions. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, non pas pour suivre l'actualité, mais peut-être pour donner à mieux comprendre le monde contemporain avec les instruments qui sont les nôtres.
L'anthropologue Didier Fassin est notre invité ce matin. Il est 8h31 sur France Culture. Restez avec nous. Didier Fassin, il se trouve que ceux qu'on appelle aujourd'hui les migrants, qu'on appelait autrefois les réfugiés, les exilés, les demandeurs d'asile, ils étaient au cœur de votre livre « La vie ». Et puis vous avez beaucoup travaillé sur cette question de demande d'asile et de situation des étrangers. Vous menez d'ailleurs une enquête en ce moment, je crois, à la frontière entre la France et l'Italie, précisément. Est-ce que cette histoire, comme toutes les autres, qui changent de visage mais qui ont des traits communs, est une illustration de cette distinction entre la vie biologique et la vie biographique sur laquelle vous insistez ?
Je crois très précisément. Au fond, ce que la chronique vient de nous rappeler, c'est que derrière ce décès, il y a une histoire, que derrière donc cette vie biologique qui a été détruite par le voyage dans ces conditions, il y avait une vie biographique, et c'est une distinction qu'on peut rapporter à Hannah Arendt, une vie biographique où il s'agissait d'une personne, et une personne dont on aurait tendance très facilement à oublier les traits singuliers de l'existence. Donc je trouve que c'est toujours très important de pouvoir insérer les grandes caractéristiques de nos tragédies contemporaines dans la singularité des cas. C'est du reste, comme vous le rappeliez, ce que nous essayons de faire à la frontière franco-italienne lorsque nous recueillons entre autres les récits de ces jeunes hommes, pour la plupart, il s'agit parfois aussi de couples, parfois avec enfants, qui viennent d'Italie essayent de trouver refuge très provisoirement à Briançon ou dans le Briançonnais avant de repartir ailleurs en France. Mais je crois que derrière cette histoire spectaculairement tragique que vous venez de rappeler, il y a les milliers, probablement les dizaines de milliers de personnes qui meurent entre le point de départ africain, dans la zone sahélienne, voire un peu plus au sud, et qui tentent de rejoindre les côtes européennes en traversant le désert, dans des conditions extrêmement difficiles, non pas simplement à cause de la chaleur, mais à cause des rapts, des agressions. Et puis ensuite, la traversée de la Libye, qui s'accompagne généralement de mois de prison pour lesquels on ne peut être libéré que en versant des rançons. Et puis finalement, la traversée de la Méditerranée pour atterrir dans un pays qui, dans le meilleur des cas, qui est l'Italie, où les politiques sont devenues tellement dures que les gens ne peuvent plus y rester. On parle là, au fond, à la différence de 2015-2016, où il y avait des nombres élevés de personnes, on parle là de chiffres qui sont, au fond, peu importants, de personnes qui migrent et dont on ne peut que s'étonner de la manière dont on les traite aujourd'hui, dont le gouvernement italien, le gouvernement français les traite, sans prendre compte cet extraordinaire périple, extraordinaire par sa durée, plusieurs années, par ses dangers, le nombre de morts sur cette route, et que ça ne soit jamais pris en compte comme, au fond, une circonstance atténuante dans la demande d'asile qu'ils auront tellement de mal à déposer en France, ou la demande de régularisation de leur titre de séjour.
Lisier Fassin, que peut l'anthropologie dans ce genre de cas? Là, vous dites recueillir des récits de vie à cette frontière franco-italienne. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir en faire?
Alors d'abord, ça n'est pas que recueillir des histoires de vie, c'est aussi comprendre plus généralement des situations. Le cas du Briançonnais est absolument fascinant parce que on voit une région et notamment une ville qui ont su s'organiser avec des gens qui n'avaient jamais eu affaire à ces migrations, en tout cas pas en nombre et pas d'origine africaine, comme ça a été le cas récemment, et qui en accueillant à la fois individuellement dans des familles ou collectivement dans un refuge, accueil qui est le plus souvent très temporaire, ont permis au fond de rendre invisible et non problématique cette absorption de quelques dizaines de migrants chaque semaine. Et au fond, il y a là comme un exemple pour le reste du pays, d'une politique qui est à l'encontre de celle de Calais et à l'encontre de celle de Paris, où la coagulation, disons, la cristallisation des migrants dans des territoires où on ne leur offre aucun accueil, les rend particulièrement visibles et donc les transforme en problèmes. À Briançon, eh bien, il y a une invisibilité quasiment de ces de ces migrants et une tolérance de la société à leur égard. Je pense que c'est aussi une chose intéressante. Alors, ce que dit l'anthropologue par rapport à tout ça, eh bien, c'est simplement d'essayer de montrer ce que sont les expériences de ces migrants, de ces exilés. C'est aussi de montrer ce que peut faire une société lorsqu'elle se montre solidaire.
Comment, puisque vous avez commencé comme médecin, donc le soin des autres est au cœur de votre vie, Didier Fassin, comment on en vient à se spécialiser, disons, sur des thèmes de l'humanitaire, de ces exilés, des exclus, des détenus, des malades du sida, de la police, de la justice, au fond de ce qui rassemble, sous le terme d'inégalité de vie. Qu'est-ce qui a fait ce passage-là de la médecine à l'anthropologie et plus particulièrement sur ces thèmes-là? Vous avez abordé la question dans votre leçon inaugurale d'un point de vue assez personnel, ce qui n'est pas courant.
Oui, j'ai évoqué notamment mon grand-père qui lui-même avait franchi les Alpes il y a un siècle pour venir en France y travailler. Il travaillait comme compagnon maçon et donc il est un prédécesseur de ceux qui aujourd'hui traversent dans des conditions assez semblables. Je ne pense pas qu'il ait été spécialement bien accueilli en France à l'époque. Les Italiens ne l'étaient pas. Il a travaillé toute sa vie sur des chantiers et puis lorsqu'il a pris sa retraite, il a vécu ce qu'il a dit être la plus belle année de sa vie, mais malheureusement elle a été interrompue par un cancer et il est décédé très rapidement. Ce qui évidemment fait écho là aussi à ce qu'on peut dire sur l'inégalité dans le domaine des retraites aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est cela qui a motivé l'intérêt pour les sujets? Je pense que effectivement, nous sommes tous les héritiers d'un récit familial et puis aussi des préoccupations qu'on a lorsqu'on est enfant, adolescent. Il se trouve que j'ai été élevé dans une cité HLM et que donc ça j'ai vu, comme d'autres, ces inégalités de façon très 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 concrète. Et je crois que le passage de la médecine aux sciences sociales a été lié au fait que la clinique que j'ai beaucoup aimé pratiquer me semblait précisément restreindre l'humain et très peu prendre en compte le social et le politique. Et je crois que j'avais envie d'aller dans cette direction.
Dans votre leçon inaugurale, toujours, vous avez cité des penseurs à qui vous devez sans doute un héritage. Vous avez cité Pierre Bourdieu, vous avez cité Michel Foucault, vous avez cité Françoise Héritier. Françoise Héritier qui a fait entrer d'une certaine façon l'anthropologie au cœur de la cité par ses prises de position, par ses fonctions également, comme vous, puisque vous avez été vice-président de Médecins Sans Frontières, vous avez occupé des fonctions importantes au sein du Conseil National du Sida et des Hépatites Virales, et puis aujourd'hui vous présider le comité pour la santé des exilés. Est-ce que vous considérez, Didier Fassin, comme elle le faisait, que les sciences sociales doivent être à la frontière de la participation et de l'observation? Ce qui n'est pas, là encore, toujours évident à tenir comme ligne de crête. Vous êtes au sein des institutions les plus prestigieuses aux États-Unis, à l'Institut for Advanced Study de Princeton, et maintenant en France, en tout cas pour un an, au Collège de France. Mais la ligne de crête entre science et conviction politique n'est pas toujours évidente à tenir.
Elle ne l'est pas, et je crois qu'il y a une attention particulière à avoir, et en tout cas dans mes ouvrages, que ce soit celui sur le châtiment, punir, ou bien celui sur la vie, j'essaye de ne pas développer un argument normatif en disant c'est cela qu'il faudrait faire, mais plutôt de développer un argument critique en disant c'est ce qui se passe et voilà comment on peut le comprendre. Et donc j'essaye de tenir cette ligne de crête, et au fond, peut-être plus comme Michel Foucault que comme Françoise Héritier, encore que les deux ne soient pas si éloignés sur ce plan, j'essaie que le travail scientifique soit accompagné, mais non superposé avec le travail citoyen. Je pense que c'est important de ne pas confondre les deux, de ne pas faire que la critique devienne une dénonciation, même si ensuite dans des rendez-vous médiatiques je peux être plus évidemment engagé que je signe des tribunes et que j'ai des engagements citoyens, parce que je pense justement que on peut avoir cette double, il faut essayer d'avoir cette double dimension d'une approche critique, et critique pas au sens de critiquer mais au sens d'une réflexion critique sur le monde, et en même temps d'avoir des formes citoyennes d'engagement, pour lesquelles d'ailleurs je n'appelle pas spécialement à ce que les autres en fassent autant, mais je crois que c'est une ligne de crête importante à tenir, et une différence qu'il est indispensable d'exprimer pour ne pas tomber dans une espèce de mélange des genres qui au fond n'apporterait rien par rapport à ce que peut dire n'importe quelle personne qui est douée d'une capacité de réflexion sur la société.
Didier Fassin, vous êtes d'accord pour rester avec nous jusqu'à 9h?
Je suis d'accord.
Merci, 8h47 sur France Culture.